On va faire le point tout de suite sur la canicule. Et pour ça, on va regarder directement avec vous, mon cher Marc. Et
bonsoir.
Bonsoir. Les vigilances. Les vigilances du jour. On est en vigilance rouge et orange toujours. La plus intense, la plus grave, étant bien évidemment la vigilance rouge.
Absolument, qui concerne donc pour l'heure 49 départements, mais elle concernera donc demain 54 départements puisque la région Normandie rejoint donc la longue liste de départements placés en vigilance rouge. La Normandie où il est quand même prévu jusque sur le littoral des pointes à plus de 40 degrés. Et puis il y a également le département de l'Oise, donc 49 plus 5, voilà, 54 départements. Département vigilance rouge demain et 35 placés en vigilance orange. Une vigilance qui évoluera très certainement encore demain après-midi à 16h et le rouge devrait davantage s'étendre vers le nord-est et vers le centre-est parce que là, la canicule s'annonce durable. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de sortie de crise, c'est-à-dire que la vague de chaleur, nous sommes au jour 6 et elle pourrait durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. En tout cas, on ne voit pas de date de fin donc pour cette vague de chaleur pour l'instant en tout cas.
Et à l'heure où on se parle, quelles sont les températures relevées alors justement ?
Alors, on a eu une pointe cet après-midi à 45 degrés.
Ça, c'est inédit.
Oui, alors on a déjà eu plus. Il a fait le record absolu de chaleur en France, c'est Vérargues, dans le département de l'Hérault, en 2019, 46 degrés. Donc là, on est à 45 degrés localement dans l'Indre, à Prunier. C'est une station qui surchauffe un petit peu, donc on va pas trop la retenir en termes de température, mais on a dans les alentours des stations qui sont très fiables, qui affichent 43 degrés. Donc à La Couronne, c'est dans le secteur d'Angoulême. On dépasse les 42-43 degrés en région Nouvelle-Aquitaine, donc vraiment dans les Landes, on est à 43,4 degrés. Aux Herbiers en Vendée, on est à 43 degrés. Donc on n'est pas uniquement à 42-43 degrés dans le sud-ouest, oui. On est à 42-43 degrés.
Ça, ce sont les températures affichées. Après, il y a les températures ressenties, bien sûr.
Absolument.
Là, c'est encore plus compliqué pour le corps.
Là, c'est un vrai problème parce que lorsqu'on regarde le ressenti actuellement, on est par endroit, à Nantes par exemple, en temps réel, là, on est à un ressenti de 48. De 48 pour le corps, c'est quand même compliqué. C'est un humidex qu'on considère comme très dangereux.
On va en parler dans un instant avec le médecin urgentiste Patrick Peloux qui se souvient avait alerté sur la canicule de 2003. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est à cette époque de l'année. C'est inédit d'avoir ces températures aussi élevées, parce qu'on n'est pas encore en juillet. Et puis, on a déjà eu une première vague de canicule.
Absolument, on a eu une première canicule donc à la fin du mois de mai. Là, bien sûr, c'était totalement exceptionnel. Et en réalité, cette vague de chaleur est tout aussi exceptionnelle, historique. Elle devrait d'ailleurs surpasser, en termes de durée et d'intensité, la canicule d'août 2003, qui avait fait près de 15 000 victimes. Et donc là, en effet, oui, les températures atteignent des niveaux remarquables. On n'est pas en juillet, on n'est pas en août, on est encore au mois de juin. C'est le tout début de l'été. Et on est à l'heure actuelle, et cette liste va s'allonger d'ici 20 minutes, là on est à près de 400 records de chaleur battus ou égalés, dont des records absolus, c'est-à-dire que dans certaines villes de France, il n'avait jamais fait aussi chaud, tout mois confondu. On a des records de chaleur en plaine, mais on a aussi des records, il fait 36-38 degrés à 1000 mètres d'altitude, et certains records remontent à, je vois, 77 ans pour Saumur dans le Maine-et-Loire, mais il y a des records qui montent à 80-90 ans, donc c'est considérable.
Alors là, on a fait un point complet sur les vigilances, sur les températures, sur les records. Et puis, il y a ceux qui cherchent la fraîcheur. Et les images que l'on voit régulièrement, ce sont les plongeurs du canal Saint-Martin. C'est comme ça qu'on va les appeler. On va retrouver Arthur Descudé. Il est à Paris avec ces jeunes qui, aujourd'hui, cherchent de la fraîcheur, sautent du côté du canal Saint-Martin. Et ils sont là derrière vous, Arthur.
Et ils sont là derrière moi, vous le voyez, tous ces plongeurs qui sont sur ce pont. Alors ce que je voulais vous montrer quand même, c'est ces grands ponts qui sont juste derrière, et bien ils sont interdits, on n'a pas le droit de plonger. On a vu tout à l'heure des affronts avec la police, où la police vient empêcher donc ces plongeurs, mais il y a quand même ces gens qui se baignent. On a rencontré Eva et Manon, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bon, on le voit, il y a beaucoup de plongeurs ce soir, c'est pas votre cas, vous n'avez pas pris le risque de plonger, si quand même?
Si, bien sûr, trois fois.
Il y a pas de risque quand même? Il y en a qui disent oui, c'est un peu dangereux de sauter, on sait pas ce qu'il y a en dessous.
On a sauté de là, mais on risquerait pas de sauter vers le pont.
Vous êtes consciente des risques quand même qu'il y a ici. Et est-ce que vous êtes baignée? Parce qu'on sait que c'est un îlot de fraîcheur très important ici dans la capitale. On n'a pas le choix de venir ici finalement.
En fait, on est venu, on pensait pas se baigner. Et au final, on l'a fait. Il fait beaucoup trop chaud.
Alors elle est comment, l'eau? Racontez-nous, elle est pas trop sale?
Eh ben, elle est douce. On était en maison de Bourgogne il y a 3 jours. L'eau était pas aussi propre.
Donc ça fait du bien finalement, c'est indispensable.
C'est ça.
Vous allez passer la soirée ici, vous?
Sûrement, oui. Jusqu'au coucher de soleil, ça peut être...
C'est votre cas aussi?
Aussi. j'accompagne mon ami.
Eh bien, on vous laisse profiter de cette fraîcheur de l'eau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc vous l'avez vu, tous ces baigneurs qui sont en train donc de profiter de cette petite fraîcheur, parce qu'à l'heure où l'on se parle, il fait encore 37 degrés et les chaleurs vont se maintenir tout au long de la soirée ici à Paris.
Voilà, Arthur Escud avec Clément Gredenier à Paris devant le canal Saint-Martin. Ça, c'est les bons côtés de la canicule. Malheureusement, quand il y a des vagues de chaleur intense, il y a aussi les drames. On a vu ces personnes âgées qui sont décédées du côté de la Gironde. Et puis, on a appris aujourd'hui que du côté de Carpentras, c'était deux enfants, deux jeunes enfants que l'on avait retrouvés inanimés et morts dans la voiture de leur mère. Anne Boisiz est à Carpentras pour BFM TV, justement. Que s'est-il passé, Anne ?
Ce qu'on peut vous dire, c'est que les faits se sont déroulés donc ce lundi en début d'après-midi, peu après 13h à Carpentras dans le quartier du Bois de Lubac. Deux enfants âgés donc de 2 et 4 ans ont été retrouvés inanimés dans la voiture familiale. Voiture qui était garée juste devant la maison, qui est donc derrière le portail vert que vous pouvez voir là sur cette image. Malgré l'intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, les deux enfants n'ont pas pu être sauvés et sont décédés. La police et les secours étaient sur place dès 13h, donc jusqu'à 16h environ. D'après les premières informations, les enfants se seraient retrouvés enfermés donc dans le véhicule en pleine canicule au retour de leur course. Les causes de la mort sont encore à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée. C'est ce qu'a indiqué en tout cas la procureure de Carpentras.
Anne Boisiz avec Victor Labbé à Carpentras dans le Vaucluse. Alors bien sûr, il y aura un rapport pour savoir précisément ce qui est arrivé à ces deux enfants. Mais là, je me tourne vers vous, Patrick Peloux, parce que c'est vrai que la tentation de dire quand on a des enfants, je sors de la voiture, je vais faire les courses, j'en ai pour 3 minutes, 5 minutes, même s'il fait chaud, on se dit ça va aller. Bah non, ça va pas, surtout quand on a des enfants en bas âge, Patrick. Docteur Peloux.
Oui. Alors d'abord, on pense à la maman, aux parents, à la famille.
Bien sûr.
Ils sont effondrés. C'est dramatique. En effet, vous rappeliez la température extérieure. Elle est peut-être aux environs 35-40. Mais dès que vous êtes dans une voiture, c'est dramatique. Les premiers décès qu'on avait eus en 2003, c'était en effet des chauffeurs routiers qui dormaient par habitude dans leur camion et qui en sont décédés.
Et combien de temps il faut dans ces cas-là quand
c'est très variable. Mais
pour que le corps dise, craque, lâche.
Un nourrisson, ça va très très vite. Et les hyperthermies tuent. C'est-à-dire que le corps, d'un coup, il ne peut plus du tout réguler cette température. Et comme c'est des enfants, ils ne peuvent pas demander à boire, ils ne peuvent pas. D'accord. Donc c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on est en train de voir là. Alors en effet, c'est beaucoup plus, comme vous disiez, c'est beaucoup plus dramatique que 2003. D'abord, on n'est même pas au mois de juillet. On a déjà eu une vague caniculaire. Quand vous faites le total des 75 canicules qu'on a eues depuis la Seconde Guerre mondiale, là, elle se rapproche à une allure. Ce que disait le GIEC, ceux qui étudient le réchauffement climatique, ce produit-là, d'accord ? On voit avec El Niño et le phénomène des courants marins qui est absolument très inquiétant. D'accord, parce que les températures, je ne vois pas du tout comment elles vont baisser. Donc, en effet, nous sommes à l'heure actuelle. Alors, on se retourne. C'est pour ça que vous nous invitez.
C'est pour ça que vous êtes là. Mais tiens, justement, si vous permettez, on va remonter le temps.
Oui.
C'était il y a 23 ans. C'était l'été 2003. La canicule de 2003, elle a duré 15 jours. C'était du 2 août au 17-18 août à peu près.
Oui.
En intensité à peu près équivalente. Voilà ce que vous disiez à l'époque.
Tout malade, finalement, c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert ? Ça veut dire que finalement, on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé ? Ils se moquent de qui ? Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient. Mais ils n'auraient pas dû mourir.
Moi, je me bats pour mes malades. Mes chiffres, j'en suis sûr. Parce que c'est des gens qui sont sur le terrain. C'est pas des gens qui sont sur un bureau avenue de Ségur avec une salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce qui se passe.
À l'époque, vous étiez en train d'alerter les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, en leur disant « les malades arrivent, ça va être une catastrophe sanitaire, on va avoir des morts par milliers ». C'est ce qui s'est passé, on a eu 15 000 morts. Est-ce qu'on peut être dans cette même configuration où on a anticipé et ça va mieux à l'hôpital ?
Pour corriger, parce qu'il fallait vraiment que les politiques de l'époque adoucissent le choc de mortalité, mais c'était plus proche de... C'était exactement 22 000 qui sont décédés. Ça avait été recorrigé après par les différentes
après plusieurs
études.
Mois,
oui. Oui, puis ils avaient découpé, ils avaient dit la canicule, ça, c'était juste... C'était pas du tout sur ces créneaux-là. Sur début août, c'était beaucoup plus large. Soit, mais ça avait fait plus de 80 000 morts en Europe. Hein, c'est ça qu'il faut signaler, c'est-à-dire que c'est pas arrêté à la frontière. Hein. Je me souviens très bien de Berlusconi en Italie qui avait dit « pas du tout, la canicule n'a aucune conséquence ». Tu parles, il y en avait eu près de 25 000 en Italie de décès. Donc,
on est dans la même configuration ?
On est là, c'est ce que vous disiez, en termes climatiques, est-ce qui est en train de se passer ? Oui, c'est absolument. Mais en termes, voyez, vous en parlez, voyez, il y a eu la mobilisation de la ministre de la Santé, mais pas que. Ils ont fait une interministérielle, je crois savoir qu'il y a encore une réunion de crise cet après-midi, donc il y a une mobilisation des pouvoirs publics qu'on n'avait pas. Mais l'écueil, c'est que, ce que je vous disais, c'est qu'on se retourne vers le système de santé pour dire il faut faire quelque chose, ce qu'on va faire, on va essayer de sauver les gens. Mais c'est avant qu'il aurait fallu agir. Moi, je suis convaincu qu'on a perdu 23 années. On a perdu 23 ans où on aurait dû, en effet, vraiment améliorer le logement, améliorer les conditions d'habitat, ne pas dire que la seule solution, c'est la climatisation, parce que vous savez que maintenant, on va consommer plus d'énergie l'été que l'hiver pour refroidir. Bon, il fallait replanter des arbres, ce qui avait été fait au départ par Anne Hidalgo, ce qui aurait dû prendre beaucoup plus d'ampleur dans plein
là,
de villes.
Là, vous parlez de Paris, hein, partout, citant de Anne Hidalgo, mais il faut parler des villes d'une manière générale.
Des villes en général. Oui, et quand d'un coup, vous avez des centres-villes qui sont de véritables centrales solaires, parce qu'en effet, les températures que vous évoquez, c'est les températures qu'il y a sur les...
Pour Paris, c'est le parc Montsouris, voilà, au milieu de la végétation.
Mais aller sur le bitume, d'accord, sur les... c'est étouffant. Et là, il y a une globalité de prise en charge qui n'avait pas été considérée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le logement, il y a les conditions de vie, il y a un changement de civilisation à avoir par rapport à l'apprentissage de la chaleur. Et preuve en est, hélas, ce qui vient de se passer à Carpentras, où du coup, il y a vraiment une évolution globale à avoir.
Justement, on va voir, puisque vous parlez d'anticipation, puisqu'on a deux responsables politiques, sur là, une élue écologiste, un ancien ministre de la Santé du gouvernement du président de la République, Emmanuel Macron, mais on va aller à Chelles. Chelles, c'est en Seine-et-Marne. Retrouver Hugo Smag, justement Hugo, avec là aussi des drames et un département qui croule sous la chaleur.
Oui, effectivement, puisque ici, vendredi, il y a un homme qui est mort, justement, noyé. Et là, donc, on est venu sur un plan d'eau, ici, sur une passerelle avec Thomas Hérigaud. On voulait vous montrer, ici, il y a effectivement des indications, quand même. On le dit, baignade et plongeon interdit, attention, danger. Pourtant, quand on regarde un petit peu plus au loin, eh bien là, vous voyez, il y a des jeunes qui ont les pieds dans l'eau, pour le moment, voilà, qui se rafraîchissent un peu plus loin. Il y en a qui plongent directement dans l'eau et qui, vont nager, alors que effectivement, c'est interdit. Mais c'est extrêmement compliqué comme question parce que effectivement ici vous l'avez dit aussi il fait très chaud, on est à 36-37 degrés à l'ombre, donc c'est très compliqué pour les jeunes de trouver de quoi se rafraîchir. Alors beaucoup viennent ici malgré l'interdiction, malgré le danger. On a parlé un petit peu avec le maire tout à l'heure qui nous expliquait que c'est très compliqué par exemple pour aménager une zone de baignade comme ici, parce qu'on lui demandait, voilà, les jeunes nous disent on aimerait simplement, s'il y avait un maître nageur par exemple, pouvoir profiter de cette eau, mais malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut une qualité de l'eau, parce qu'il y a des dangers qui ne sont pas connus, comme eh bien sur cette passerelle. Le fait de sauter, par exemple, c'est très dangereux parce qu'il y a des pierres en dessous qu'on ne connaît pas exactement le fond de ce bras de la Marne, par exemple. Et donc voilà, ici, il peut y avoir aussi des drames, comme ça a eu lieu vendredi. Depuis le début du week-end, on ne cesse de le rappeler, il y a eu 13 morts depuis samedi soir. Et donc c'est une situation extrêmement dangereuse avec du personnel très mobilisés, notamment les sapeurs-pompiers. C'est la sécurité civile qui le dit. Ils sont 250 000 à être mobilisés pendant tout cet épisode de chaleur.
Smag avec Thomas Hérigaud à Chelles, en Seine-et-Marne. Bonsoir Yannick Noder, je rappelle que vous avez été ancien ministre de la Santé, vous êtes médecin vous-même. Bon, il y a ces drames de la noyade, bien sûr, il y a la prévention. Après, il faut aussi parler de responsabilité individuelle, c'est-à-dire quand on a des messages, on dit « faites attention, c'est interdit d'y aller, il y a des risques de courant, vous risquez de vous retrouver tout seul », malheureusement, si une personne y va, elle prend ses risques aussi, c'est quelque chose qu'on peut rappeler. Même s'il fait très chaud, même si on a envie de se rafraîchir.
Je pense que c'est une responsabilité collective et sociétale. Pour revenir sur les chiffres de décès, n'oublions pas que la chaleur tue. La période de canicule tue avec des pics de décès. Hein. Sur 2025, on a eu à peu près un tiers des décès qui sont survenus pendant la période dite caniculaire, les deux périodes. Mais la chaleur tue d'une façon globale. Donc naturellement, moi ce matin, j'étais en Isère, chez moi. J'ai vu quand même beaucoup de gens qui, à mon avis, n'avaient pas entendu les consignes ou ne se rendent pas compte que les consignes les concernent. Moi, j'ai vu des cyclistes attaquer des cols. J'ai vu des trails qui a fallu effectivement expliquer que c'était dangereux de faire des trails à cette température-là.
Ouais. Donc c'est une question de responsabilité individuelle alors que les messages passent.
Les messages sont sur les réseaux sociaux, mais par contre c'est toujours
les
pareil. C'est dangereux, mais pas pour moi. Je crois que c'est ça le problème. Oui, donc, après, pour revenir sur ce que disait Patrick Pelou, je crois que moi je partage l'idée que on a un retard d'aménagement de nos politiques publiques d'une façon générale. Je pense que créer les îlots de fraîcheur, enlever tout ce goudron dans nos cours d'école. J'ai été maire, moi, il y a 20 ans. Le standard, c'était effectivement de pouvoir avoir ces cours d'école.
Oui, mais regardez,
il y a les salles de classe et tout un tas de choses. Je pense que c'est des. On s'oppose là-dessus.
C'est-à-dire, il y en a qui demandent un plan clim, d'autres qui disent non, la clim n'est pas la solution. Certains demandent des aménagements. Après, quand on regarde le bâti des écoles primaires, c'est les municipalités. Le bâti des collèges, c'est les départements. Le bâti des lycées, c'est les collèges,
oui,
c'est les régions.
Tout ça n'est pas antinomique, il faut être pragmatique.
Mais c'est compliqué.
La climatisation ne réglera pas tous les problèmes. Par contre, ça ne doit pas être un tabou non plus. Notamment, je parle à l'hôpital, quand on a des patients.
Vous avez des clims à l'hôpital maintenant ?
Pas partout.
Il en faudrait.
Mais bien sûr. Mais moi, je ne suis pas contre du tout ce positionnement-là. Un patient qui est fragile, qu'on hospitalise, un insuffisant cardiaque, un insuffisant rénal, qui ont des gros risques de déshydratation, les hospitalités pour les hydrater, pour les mettre dans une chambre à 32, n'a pas de sens médical.
Donc c'est là où la climatisation...
Comme interdire, par exemple, certaines écoles, il faut faire attention, des enfants sont plus au frais à l'école qu'ils ne le sont dans leurs appartements. Oui. Donc tout ça est à prendre avec parcimonie. En tout cas, la climatisation ne doit pas être un tabou en France, surtout que la climatisation a beaucoup changé ces 15 dernières années. Déjà, il y a des normes qui se sont appliquées, on a des fluides beaucoup plus propres, et sur notre énergie, on a une énergie électrique qui est beaucoup plus propre que celle de l'Allemagne. Donc, ce n'est pas un totem non plus. Hein. On peut aménager, on peut avoir des bâtiments BBC, on peut avoir de la végétalisation. Mais dans certains secteurs, moi, je me rappelle avoir climatisé des crèches quand j'étais président d'intercommunalité, contre l'avis de la protection maternelle infantile à l'époque. Mais il me semblait que l'indication de mettre des enfants dans des ambiances plus rafraîchies, climatisées, était beaucoup mieux pour leur santé que de leur faire prendre le risque de faire des convulsions thermiques.
Aujourd'hui, on est obligé de fermer des écoles parce qu'il y fait trop chaud. Rénover complètement une école ou en construire une autre, ça coûte beaucoup plus cher que peut-être installer la climatisation. Est-ce qu'on peut réfléchir à une manière intelligente à ce moment-là de faire de la climatisation ?
Alors, en fait, moi, j'ai presque envie de commencer par dire que de temps perdu, en réalité, sur le manque d'anticipation. Tout à l'heure, on disait, on y est. C'est-à-dire que tout ce qui avait été projeté par le GIEC, par la COP21, au moment où on avait dit qu'il faut limiter à 1,5 degré l'augmentation, on y est aujourd'hui, on est dans l'emballement de ce qu'on disait à l'époque qui n'existait pas. Il y en avait plein qui disaient « c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi, les écologistes sont des affabulateurs ». On y est. Et donc on y est et on n'est pas prêt. Ce qui fait qu'on est en train de vivre une crise sans précédent, parce que oui, c'est peut-être la même chose qu'il y a en 2003, sauf que c'est au mois de mai, c'est au mois de juin, c'est pas au mois d'août. Et donc, on avance comme ça dans l'année, on va se retrouver avec de plus en plus de pics de chaleur comme celui-ci. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de tabou sur la question de la clim. Moi, je pense qu'à l'hôpital ou dans des endroits, même si...
J'imagine que vous préférez ou mettre vos enfants dans une école climatisée ou travailler dans des bureaux climatisés quand même.
Mais je pense quand même qu'il faut réfléchir à adapter nos bâtiments. C'est-à-dire que même les hôpitaux doivent être totalement rénovés pour avoir des bâtiments qui soient aussi pratiques. Parce qu'on parle des clims dans les chambres des patients, mais il faut penser au personnel soignant qui travaille aussi dans ces hôpitaux. Les bâtiments, aujourd'hui, même les hôpitaux ne sont pas adaptés. Les écoles ne le sont pas. On a fermé les écoles. Moi, je suis à Nanterre. À Nanterre, maintenant, la piscine est gratuite. On a 1000 nageurs par jour. Enfin, vous voyez, en termes de logistique, il faut des maîtres nageurs.
Je ne comprends pas. Vous êtes pour ou contre ?
En fait, ce que je dis...
Pour ceux qui nous regardent.
Mais ce n'est pas aussi simple, en fait.
Ah bon ?
Non, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'aujourd'hui, vous avez...
Regardez, là, vous pénétrez dans un bâtiment, c'est des dizaines de milliers de mètres carrés où il y a des centaines de personnes qui travaillent. On met la clim.
Oui, mais vous avez un groupe politique aujourd'hui qui dit qu'il faut mettre de la clim partout. Nous, on dit non. Il ne faut pas mettre de la clim partout.
Est-ce que dans les écoles, vous êtes pour ?
Mais en fait, non, je pense qu'il y a des écoles qu'il faut rebâtir, il faut refaire un réaménagement des bâtiments pour qu'elles soient fraîches sans avoir besoin de mettre des climatiseurs.
Ouais, mais là,
s'il faut avoir une pièce fraîche dans une école pour pouvoir faire tourner les élèves et avoir un espace de fraîcheur, oui. S'il faut climatiser tous les bâtiments partout, tous les hôpitaux, tous les immeubles,
Madame Sébert, on peut les installer. Ils n'auront pas forcément à tourner, mais au moins c'est installé quand il y a des pics de chaleur qui arrivent. Donc là, on se retrouve à fermer des classes dans un pays où l'école et l'instruction est obligatoire. On se retrouve à fermer des classes, à dire aux enfants, rentrez chez vous, on peut pas assurer votre sécurité. Et ce sont les parents qui doivent les prendre en charge,
alors qu'eux-mêmes doivent travailler. La clim est une réponse d'urgence immédiate parce que nous sommes en plein
cœur. En attendant
de
démolir une école, d'en reconstruire une autre, de l'aménager.
Mais on peut réaménager des écoles, on peut réadapter des lieux, justement, pour faire en sorte qu'ils soient plus rafraîchis, on peut replanter des arbres, on peut faire énormément de choses.
Au sein des écolos, on voit bien que vous n'êtes pas sur la même, des écologistes,
mais,
pardon, non, sur
mais
la
pardon,
même longueur d'onde.
Depuis, ça fait des années qu'on parle des bouilloires thermiques et qu'on dit qu'il faut réhabiliter les logements. C'est pas nouveau, on l'a toujours dit. Dans les bâtiments publics, dans les écoles, dans les logements, on l'a toujours dit. Ça n'a pas été fait. On est en retard. Maintenant, on gère la crise en mettant des climatiseurs en pensant que ça va résoudre les choses. Moi, je vous dis attention, parce que mettre des climatiseurs partout, ça veut dire aussi augmenter les températures. Ça veut dire aussi augmenter les températures extérieures sur l'espace public parce que les climatiseurs relâchent de l'air chaud à l'extérieur et donc on va avoir.
On renvoie les enfants chez eux.
Mais renvoyez les enfants. Ben oui, mais renvoyez les enfants chez eux.
Dans un pays où l'école est obligatoire, on peut pas vous protéger.
On peut faire les deux. C'est ça que je vous expliquer.
Faut faire les deux.
Qu'est-ce que vous avez fait au gouvernement en 10 ans d'Emmanuel Macron alors sur la rénovation, l'anticipation?
Je vous coupe tout de suite. Moi, j'ai été ministre 10 mois. Donc en 10 mois, j'ai eu à gérer une crise. C'était l'été dernier, qui est arrivé un peu plus tardivement, et on se retrouve devant les mêmes constats, parce que effectivement, c'est des politiques qui doivent de faire sur plusieurs années. Donc, je pense que dans toute réhabilitation d'écoles, dans toute construction d'hôpital, maintenant, on doit tenir compte des choses. Donc, il s'agit pas de climatiser des passoires thermiques pour consommer de l'électricité, pour rejeter du CO2 et compagnie. Par contre, tout bâtiment peut bénéficier, et c'est le but d'amélioration de son isolation. Et puis, si ça suffit pas, il faut pas être dogmatique et autoriser la climatisation. Oui, moi je suis très favorable, mais on réhabilite d'abord, on isole, et c'est comme on chauffe pas une passoire thermique l'hiver, et ben on chauffe pas, on rafraîchit pas une bouilloire thermique l'été.
Non, mais on peut reconstruire, réhabiliter. Bon, c'est une chose. Moi, je vis dans une résidence neuve avec des critères environnementaux a priori, ce qui vient de se faire, les derniers trucs sur le marché, et pour autant, c'est s'il y a pas de climatisation, c'est un peu un four. Vous voyez, il y a le soleil qui tape jusqu'à 14-15 heures.
Vous avez des stores, vous avez des volets.
Oui, j'ai des stores, j'ai des volets. Et pour autant, la façade est en béton brut. Et pour le coup, ça chauffe et il fait 30-35 degrés dans l'appartement. Et donc, c'est pareil pour les écoles. Et on peut avoir le dernier...
Vous allez vous climatiser du coup ou pas?
Vous voulez la vérité?
Ouais.
Pour le coup, à la maison, j'ai une pompe à chaleur. Que j'ai fait voter via la copropriété, parce que c'est très long, il faut l'accord de la copropriété, etc. Et à la place de chauffer au gaz avec l'envolée du prix du gaz, j'ai chauffé avec la pompe à chaleur cet été, et ça m'a coûté beaucoup moins cher en termes d'électricité. Et oui, en effet, c'est beaucoup plus confortable. Vous avez un bébé d'1 an, vous n'avez pas le choix en ce moment. Il fait 30-35 degrés dans les appartements.
On va prendre un exemple concret. Docteur Pelou, une seconde. Un exemple concret dans une école à Nantes. On va y retrouver Julie Roser en direct pour BFM TV, parce que dans cette école, il y fait tellement chaud qu'on n'a pas pu accueillir les enfants.
C'est ça, à Nantes, on a décidé de fermer les 142 écoles publiques de la ville. C'est une décision de Johanna Roland, la maire de Nantes, face à ces chaleurs insoutenables. Ici, il fait 42 degrés à Nantes. Et donc, dans les salles de classe, les enseignants me disaient ce matin qu'il faisait au petit matin 30 degrés, 32 degrés, c'est insoutenable. Même pour les enfants qui, eux-mêmes, avouent qu'ils n'arrivent pas à travailler dans ces conditions-là. Je vous propose de les écouter, ils étaient au micro de Chloé Berthaud.
Qu'on a des ventilateurs en classe, sinon il fait vraiment super chaud en classe. C'est dur de se concentrer.
Il faisait chaud et donc on pouvait pas trop travailler vu qu'il faisait quand même très chaud. Enfin, on peut pas faire des jeux qui sont sportifs, on va dire ça comme ça, mais donc on peut pas trop jouer.
Les parents ont donc été invités à venir chercher leurs enfants à la mi-journée, mais pour la plupart, ils n'avaient pas mis leurs enfants dès ce matin. Pour les parents qui travaillent ou qui n'ont pas de solution de garde, la mairie de Nantes a mis en place 4 accueils périscolaires qui sont dans des endroits plus frais, plus aérés, mais seulement 90 enfants y étaient inscrits sur les plus de 20 000 écoliers scolarisés à Nantes, ce qui montre bien que les parents ont préféré garder leurs enfants auprès d'eux, malgré, je vous le disais, des températures tropicales, 42 degrés ici à Nantes.
Voilà, Julie Roser et Chloé Berthaud à Nantes. On va quitter la Loire-Atlantique. pour aller dans le Gers, on va retrouver sur place justement Isaure de la Gorce avec Valentine Ribes. Elle est à Cazaune anglaise parce que c'est les agriculteurs aussi, bien sûr, qui s'inquiètent de ce coup de chaud sur leur récolte.
Effectivement, il y a une inquiétude ici par rapport à cette chaleur, près de 40 degrés. On va en discuter directement avec Adrien, qui est agriculteur. Comment vous, vous vivez ces fortes chaleurs ?
Mais aujourd'hui, on ne les vit pas forcément bien. Le confort du travail, il n'est pas forcément là. Cette année, sur du colza, on a réussi à faire quand même un joli colza. Mais bon, fin mai, il y a eu une très forte chaleur d'un coup. Forcément, le grain n'a pas eu le temps de finir de gonfler, de se développer. Donc, le rendement était moindre. On aurait pu faire un plus gros rendement, mais voilà. Ça, c'est sur la partie colza. Après, sur la partie blé, on a eu des très fortes chaleurs, mais on a eu aussi eu un épisode de grêle qui a impacté le blé, donc qui a fait chuter d'au moins 15-20 quintaux. Donc, les quintaux, c'est un quintal, c'est une tonne par hectare.
Donc, ça fait beaucoup de pertes potentiellement.
Oui, ça fait beaucoup de pertes, et surtout avec la forte chaleur, le grain a eu tendance à tomber très vite de l'épi. Donc, ça n'a pas été rattrapable. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits pour vous au niveau du travail, par exemple décaler les horaires ?
Oui, actuellement, on a une réglementation qui est mise en vigueur. Donc, théoriquement, on n'a pas le droit de moissonner entre 14h, il me semble, et 21h. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tout le travail qu'on a, bon, ces horaires, on ne peut pas forcément toujours les respecter et ne pas prendre le risque de moissonner.
Parce qu'il y a un risque pour vous, il fait très chaud, mais aussi le problème, c'est que vous travaillez avec des machines pour la moisson et ces machines ont plus de 20 ans. Et vous nous expliquez, il y a un problème aussi, il y a un risque d'incendie, c'est ça, pendant la moisson.
Alors là, on est bon, sur des machines qui ne sont pas forcément toutes jeunes, mais il y a toujours un risque d'incendie, que ce soit sur des machines qui sont neuves ou qui sont sorties d'usine. C'est travailler en pleine chaleur, il y a un risque de chauffe, ça travaille toute la journée et tout travaille.
Et à l'intérieur, vous, dans ces petites cabines, j'imagine qu'il n'y a pas la clim.
Si, il y a la clim.
Ah, vous avez la clim ?
J'ai la clim. Elle refroidit pas trop, mais il y a un peu la clim quand même.
D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. On vous souhaite bon courage parce qu'il va continuer à faire très chaud, 40 degrés aussi ici demain dans le Gers.
Isaure de la Gorce avec Valentine Ribes. Est-ce qu'il faut des droits de retrait pour ceux qui travaillent ? Est-ce qu'il faut des congés spéciaux lorsqu'il y a des périodes de climatisation ? Est-ce qu'il faut aménager le droit du travail en fait ?
Bah, vous avez vu que on a justement
proposé un congé climatique, lancé une pétition.
Oui, oui. Oui, tout à fait, justement parce qu'on estime que là, on est dans ce que je disais tout à l'heure, on est dans un cycle où finalement, on va devoir s'adapter à la question du climat. Le pic qu'on connaît aujourd'hui va se refaire. En fait, on va le revivre à plusieurs moments de l'année, donc il va falloir anticiper. Et on va pas laisser des personnes mourir sur des chantiers. On va pas laisser.
Le patron, il a l'obligation de santé
bien
pour
sûr,
ses salariés.
Mais on prend l'exemple des parents, par exemple, dont les écoles sont fermées à cause de la canicule ou à cause d'incendies, d'inondations, quoi que ce soit d'autre. Eh bien, ils pourraient bénéficier de ce congé climatique de 5 jours qui leur permet de garder les enfants à la maison en étant soulagés, de ne pas avoir à chercher des systèmes de garde et donc qui rajoute une charge mentale pour les parents de se dire oulala, non mais en plus je peux pas aller travailler, mes enfants peuvent pas aller à l'école. Et donc là, ça permet de faire fonctionner les choses. En Espagne, c'est déjà le cas. Il y a un congé climatique de 4 jours.
Oui,
ça fonctionne très bien. Ça permet de faire des économies. Et franchement, je ne vois pas pourquoi en France, on ne le ferait pas.
Oui, mais dans quelles conditions les enfants vont rester chez eux ? C'est exactement ce que disait tout à l'heure Yannick Neuder sur les malades qui viennent parce qu'ils sont déshydratés ou qui ont des coups de chaud. Qu'on arrive parce qu'on a des protocoles qui sont très bien faits maintenant. On arrive à refroidir les hyperthermies dues à la chaleur, mais ça sert strictement à rien de les faire retourner chez eux ou les faire tourner dans des pièces qui sont des fours et c'est complètement. Donc on est obligé de les garder à l'hôpital parce que leur logement est inadapté. C'est là où vous apercevez que la crise que nous avons, elle est médico-psychosociale, que ça touche absolument tout le monde. La preuve, votre agriculteur là qui vient de parler, bon. On sait que dans quelques jours, c'est pas du tout, je suis pas devin, mais c'est une évidence, il va y avoir les incendies qui vont arriver. Et donc, il y a vraiment, c'est là où vous deux, vous êtes à la direction du truc.
En tant que
on a perdu
politique.
23 ans pour des orientations politiques écologiques qui étaient suffisamment fortes pour, en effet, tous les exemples que vous prenez. Depuis 23 ans, on aurait pu les résoudre. Et là, on nous demande de faire face à nouveau à ce choc. On nous a fermé plus de 100 000 lits en 20 ans. Comment on va faire ? Puisqu'on ne pourra pas renvoyer les gens
dans leur fournaise.
Alors là, il nous reste peu de temps. Ça peut être l'enjeu de la campagne d'élection présidentielle, et ça va l'être, justement. Comment on remet le pays en mouvement face à ces alertes climatiques? Comment est-ce qu'on rénove? Comment est-ce qu'on rebâtit? Comment est-ce qu'on refonde peut-être le droit du travail? Est-ce qu'on peut trouver même un consensus ou des mesures communes, là?
Après, moi, sur le congé climatique...
Vous êtes pour?
Non, pas spécialement. Moi, je suis pour que chaque vous l'avez dit, chaque employeur prend soin de ses salariés. Il y a des adaptations. Je pense qu'il faut laisser aussi un peu de liberté. Moi, je vois beaucoup chez moi, pardon, je prends l'exemple de ma circonscription qui est rurale, mais qui a aussi beaucoup d'entreprises du BTP. Les horaires sont décalés. Personne n'a intérêt à mettre des salariés entre midi et 15 heures. Je vois des moissons. Effectivement, les horaires sont encadrés par la préfecture. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. J'ai vu des moissons chez moi qui se faisaient tard le soir.
C'est ce qui va se faire dans le Gers.
Donc, je crois qu'il faut faire attention. 5 jours. Moi, j'ai rien contre ces 5 jours. Mais on sait très bien que la dernière a duré 16 jours d'affilée. 5 jours. Attention. Après, Patrick Pelloux l'a bien dit. On a des enfants qui vont se retrouver peut-être dans de plus mauvaises conditions chez eux que conditions d'école. Et puis, les élus locaux sont quand même très responsables. Il n'a pas été dit. Moi, j'ai pas l'explication de Nantes. Mais on peut très bien fermer les écoles parce qu'elles ne correspondent pas, et puis pour les enfants dont les parents ne peuvent pas assurer le mode de garde, avoir des endroits réfrigérés qui peuvent accueillir les enfants. Donc il faut différencier l'enseignement qui sera perturbé, mais les conditions d'accueil qui peuvent être maintenues. Je crois qu'il faut laisser aussi les employeurs, tout le monde, on l'a dit en début d'émission, on est tous responsables, laissons aussi tout le monde s'adapter. Par contre, penser que les enjeux écologiques et climatiques ne peuvent pas s'inviter dans la campagne électorale est une folie. Il faut que ça soit au cœur de la campagne électorale.
C'est le débat d'idées que nous avons eu en quelques minutes. Vous pourrez continuer de l'écouter. Il sera aussi en direct ce soir sur BFM TV dans une émission spéciale consacrée justement à cette canicule. La France suffoque, avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux, d'autres responsables politiques qui seront là justement dans l'émission spéciale à 21h, présentée par Marc et par Maxime Switek.
Je sais
parce que j'ai levé la tête en me tournant vers vous, parce que vous avez encore des chiffres, notamment ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde sur les températures.
Alors en France, donc, on a approché les 44-45 degrés. C'est vrai que pour trouver des températures plus élevées, je regardais cet après-midi, il faut se diriger en Irak, où il fait 47 degrés. On a dans le top 5 également l'Iran, où il fait près de 50 degrés. Mais en tout cas, il fait plus chaud actuellement en France qu'à Dubaï, qu'à Mascate, qu'à Marrakech. Enfin, en tout cas, voilà. Quand on regarde un peu l'anomalie des températures à l'échelle du globe, on voit que les couleurs sont les mêmes entre la France, l'Irak. Et en tout cas, on a ce dernier chiffre là en info BFM TV. 459 records de chaleur, battus ou égalés, dont 102 records absolus, c'est-à-dire que dans 102 villes, là, il n'avait jamais fait aussi chaud, donc, tout mois confondu.
Avec ce que vous venez de nous dire, je comprends bien, l'Irak, pour le moment, bat la France de 3 degrés.
De 2-3
L'Irak
degrés,
est notre adversaire ce soir. Pour le mondial, c'est le foot, les Bleus.
Parlant de compétition sportive, puisque tout à l'heure, il y avait l'exemple des vélos, ça pose la question des compétitions sportives mondiales dans des conditions de chaleur qu'on connaît aujourd'hui et qui se maintiennent.
Il y a un nombre de compétitions qui ont été annulées depuis plusieurs jours. D'ailleurs, Sonia Carnero est à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, où les Bleus vont avoir leur deuxième adversaire, donc ce soir, l'Irak. Et vous êtes avec les supporters.
Exactement, et c'est pas tant le match qui nous intéresse, ça devrait être une formalité pour les hommes de Didier Deschamps qui devraient aller chercher leur qualif pour les 16e, c'est la météo. Vous avez les fortes températures en France, nous on a les fortes températures et des conditions mais apocalyptiques qui s'annoncent ici du côté de Philadelphie. On devrait avoir l'humidité, 28 degrés, ressenti 33, des vents forts, mais surtout de l'orage. C'est le principal danger pour l'organisation parce qu'on vous rappelle la règle, elle est stricte ici. S'il y a un orage, un éclair, peu importe, qui est détecté à moins de 13 km de la zone du stade, le match est interrompu pour au moins 30 minutes. Joueurs, arbitres, tout le monde rentre au vestiaire, les supporters d'Asselagné des bancs. Et à chaque éclair qui est détecté, on repart pour un chronomètre de 30 minutes. Imaginez-vous, la rencontre, elle peut durer longtemps. Elle aura lieu à 17h ici. On est avec David qui s'est préparé pour ces conditions météorologiques dantesques pour ce match. David, j'ai l'impression que vous êtes venu bien équipé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre...
C'est la caverne d'Ali Baba. Il y a un kawé ici pour moi, un kawé pour Leonardo, notre fils, un kawé pour ma femme. Alors, on a les petites bouteilles d'eau aussi. Et puis surtout, on a les drapeaux, bien sûr.
Vous êtes bien renseigné sur la météo, ça vous inquiète ou pas?
Très inquiétant, ouais. On va voir, parce qu'après, on a ça pour les téléphones aussi. En fait, on va voir comment ça va se passer, parce que de toute façon, nous, on est là pour le match. Donc, peu importe la météo, nous, on est prêts. On est prêt, mais bon, après, il faut quand même minimiser les dommages. On a des chargeurs, des téléphones, vous voyez, donc il faut quand même éviter que tout se trempe. Puis il faut qu'on puisse rentrer à la voiture après, donc, et on a des affaires de rechange aussi dans la voiture. Donc comme ça, on est tranquille, on peut rentrer à l'hôtel pas trop trempé. On est dans le New Jersey, donc...
Vous êtes bien préparé, David. C'est vrai que pour l'instant, on s'en rend pas compte. Hein. Il fait beau, c'est vrai qu'il fait lourd, mais encore, le soleil est là. Dans quelques heures, on va changer d'ambiance ici à Philadelphie.
Sonia Carnero avec Olivier Saint-Paul. Et puisqu'on parle du mondial, puisqu'on parle de foot et puisqu'on parle des Bleus, tiens, il y a un petit cadeau si vous voulez. Il faut avoir un peu de chance. C'est gagner la prime de match. C'est juste en envoyant un SMS. La prime de match, elle est de 30 000 euros. Le SMS est au 7-24-24. Il y a un petit tirage au sort, c'est votre numéro de téléphone, c'est un gain de jeu, donc vous ne passez pas sous les fourches codines du fisc. 30 000 euros à gagner, par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal, effectivement.